Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maëlys André, Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Dernier temps de notre semaine consacrée aux droits de l'homme, après avoir fait un bilan lundi des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, après avoir parlé mardi du pacte de Marrakech et du droit à l'immigration. Hier, c'était la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Place aujourd'hui à l'environnement. Protéger l'environnement vers un droit fondamental, c'est la question qu'on se pose ce matin.
L'importance de protéger l'environnement s'imposant comme une évidence, de nombreux pays ont amendé leurs lois nationales et ont explicitement ajouté des droits environnementaux à leur constitution ou dans un texte de loi nationale. En 1976, le Portugal est devenu le premier pays à adopter une constitution selon laquelle chacun a le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Depuis lors, plus de 100 États ont intégré des droits semblables dans leur constitution. Des États ont aussi explicitement reconnu le droit à un environnement sain au moyen d'accords régionaux, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie du Sud-Est. Cependant, aucun accord mondial n'énonce explicitement le droit à un environnement sain. Si la Déclaration universelle avait été rédigée aujourd'hui, elle inclurait certainement un droit désormais reconnu dans autant de constitutions et d'accords régionaux. D'un autre côté, il faut souligner que les Nations Unies n'ont pas profité des occasions qui se sont présentées pour reconnaître le droit mondial de vivre dans un environnement sain.
John Knox, ancien rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'environnement, regrettant qu'il n'y ait pas d'accord international énonçant le droit à un environnement sain et soulignant l'incapacité aussi des Nations Unies de se saisir de l'opportunité pour reconnaître ce droit qui, je le rappelle, n'est pas présent dans la Déclaration universelle de 1948. Alors que le dérèglement climatique s'accélère, la COP24 s'est ouverte au début de ce mois en Pologne, dans une certaine indifférence, alors même qu'après 3 années de quasi-stabilité, les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse. Force est de constater que les égoïsmes s'aggravent, que le repli et le nationalisme gagnent du terrain et que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris de 2015 a porté un coup terrible à l'ambition de limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement. Alors faut-il se résigner, abandonner nos velléités écologistes? Peut-être pas, car en effet certaines choses nous permettent de garder un peu d'espoir. Procès climatique, décisions judiciaires et marche citoyenne pour le climat, les revendications pour un droit à un environnement sain se multiplient. Alors le droit pourra-t-il sauver la planète? Et faut-il alors introduire la protection de l'environnement dans les droits de l'homme? Vivre dans un climat salubre pourrait-il devenir un droit fondamental? Pour évoquer ces questions, deux invités ce matin avec nous. Martha Toré-Chaup, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste, directrice de recherche au CNRS et rattachée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de Paris 1, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je citerai l'essentiel des grands arrêts de la jurisprudence en droit de l'environnement chez Galino Lextenso, mais aussi quel droit pour les changements climatiques chez Mar et Martin en 2017. À vos côtés, Camilla Peruzzo, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'Université Paris 1. Vous préparez une thèse sur le droit en environnement sain en droit international et on va parler justement de droit international aujourd'hui. Mais d'abord, un mot sur cette COP24. Elle s'est ouverte il y a quelques jours, elle se finit là à la fin de la semaine. Que vous inspire le silence assourdissant dans lequel elle se déroule? Martha Toré-Chaup.
Alors, c'est pas tellement un silence total, puisqu'il y a pas mal d'ONG très engagées en France et sur le plan international qui font des comptes rendus journaliers qu'ils publient sur les réseaux sociaux. C'est plutôt un silence institutionnel. Donc ça déjà, c'est vrai que ça fait une différence, puisqu'on avait dit que l'accord de Paris, tel qu'il était issu de la COP21 qui s'était tenue à Paris en 2015, c'était une manière de faire le droit du changement climatique par le bas et non plus par le haut. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se retrouve avec la même dichotomie, d'un côté les institutions, donc le haut, et d'un autre côté la société société civile, les ONG, le bas. Donc, est-ce que ça va se rejoindre finalement? Voilà la question.
En tout cas, Antonio Guterres a envoyé hier un vrai signal d'alerte en disant on est très très loin du compte, il va falloir vraiment accélérer les discussions. Camila Peruzzo, il y a plusieurs États qui se sont alliés pour édulcorer la référence au rapport historique du GIEC sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. L'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie, les États-Unis, tous des États pétroliers, qui ont refusé qu'on indique dans un rapport technique que les pays accueillent favorablement, je mets entre guillemets, accueillent favorablement le rapport du GIEC, mais plutôt qu'ils en prennent note. C'est dire évidemment combien ils l'ignorent allègrement. Finalement, quels sont les enjeux de cette COP? Est-ce qu'il y a encore des raisons d'organiser ce genre de sommet, d'y envoyer des délégations lorsqu'on voit le manque de volonté des États, en tout cas de certains États?
Oui, absolument. Je pense que la COP, les COP, ce sont les moyens pour mettre en œuvre les engagements que les États ont pris. Après, les contextes politiques vont changer, les États vont changer de position, vont essayer d'assouplir leurs engagements. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les négociations, parce qu'il y a toujours du mouvement qui est tout à fait important pour mettre en œuvre effectivement les accords pris.
Oui, vous parlez de contexte politique et vous avez raison. Il y a effectivement, on voit des difficultés au niveau international, mais on le voit aussi au niveau national. Et là, Martha Torre-Schaub, de ce point de vue, la France est un exemple assez clair, assez notable, avec cette décision récente du président français d'annuler la taxe carbone sur les carburants suite au mouvement des Gilets jaunes. Que vous inspire pour le coup que cette mesure, destinée quand même à réduire, à réduire les émissions, à protéger l'environnement, soit victime comme ça de cette crise économique et sociale qui est réel, hein. Il s'agit évidemment pas de la minorer, mais est-ce que c'est pas la preuve que finalement cette transition écologique va être encore plus difficile que l'on pensait et que peut-être il va falloir confier au droit, précisément, la tâche de passer ces obstacles qui aujourd'hui semblent si difficiles à franchir?
Alors, en fait, je diviserai votre question en plusieurs points. D'abord, la France, elle avait quand même été pionnière de la transition énergétique avec une loi de 2015, qui était une loi qui avait été publiée juste avant la COP21. Donc la France, d'une certaine manière, s'est trouvée en amont, en fait, de ce qui allait être décidé au niveau international. C'est une loi qui est très complexe, puisque elle, à chaque article est renvoyé à un décret d'application. Il y a à peu près 1000 et quelques décrets d'application de cette loi, donc vous pouvez imaginer la complexité, ce qui indique aussi que la transition, c'est pas seulement une question des taxes, donc deuxième point pour répondre à votre question, c'est une question beaucoup plus globale qui remet en cause d'abord l'organisation du territoire, la question de l'urbanisme, l'isolement, la question de l'habitat, évidemment la question des transports, mais pas que les voitures, hein, mais également kérosène, avions, repenser peut-être le transport ferroviaire et utiliser moins le transport par les routes, réfléchir à la mobilité des citoyens, pourquoi est-ce que nos modes de vie actuels et l'organisation du territoire français imposent les gens de faire autant de kilomètres pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc, si vous voulez, la question de la transition, elle est complexe, donc elle mériterait d'être vraiment bien réfléchie avant d'annoncer une taxe par-ci, une taxe par-là, parce que ça a l'air un peu déconnecté finalement. Voilà un petit peu mon avis.
Revenons sur les questions internationales et en particulier, on fête évidemment cette semaine les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Camila Peruzzo. Quand l'ONU adopte cette déclaration universelle en 1948, il n'est fait aucune mention de la question de l'environnement. Il faut dire qu'évidemment à l'époque ça n'apparaissait pas comme une urgence de premier ordre. Et puis progressivement, on a senti combien ce dérèglement climatique était central, qu'il pouvait non seulement hypothéquer l'avenir, mais qu'il avait aussi des conséquences très concrètes dès aujourd'hui sur les populations et en particulier sur les droits humains. Depuis quand l'ONU a pris justement conscience de cette corrélation entre environnement et droits humains? À quand est-ce qu'il faut remonter pour voir les premières interrogations relatives au lien entre droits de l'homme d'un côté et puis dérèglement climatique de l'autre?
C'est très tôt, effectivement, que l'ONU va prendre en compte les liens entre les droits de l'homme et la protection de l'environnement. Donc, c'est dès la déclaration de Stockholm de 1972, où dans le principe premier est établi justement cette corrélation, cette nécessité de protéger l'environnement pour que l'être humain puisse bénéficier de ses droits de l'homme. Donc, c'est vrai que cette prise en compte, elle se fait dans les cadres de la protection de l'environnement, donc dans une branche du droit international de l'environnement. Donc elle va la préoccupation de protéger l'environnement parce que ça touche aux droits de l'homme va entrer dans les cadres de la protection du système onusien de protection des droits de l'homme un peu plus tard. Donc on va voir ce mouvement plutôt venu du droit international de l'environnement qui va prendre en compte les rapports entre l'homme et la dégradation environnementale. Mais c'est vrai que dès les années 90, le système onusien commence à se préoccuper, à prendre en compte les effets néfastes de la dégradation de l'environnement qui impacte les droits de l'homme.
Sans pour autant mettre en place un véritable droit international sur cette question-là de l'environnement. Et alors justement, venons-en à une initiative relativement récente, Marta Torres-Schaub. En mai dernier, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution ouvrant la voie vers la négociation d'un pacte mondial pour l'environnement, qui a pour objectif peut-être de pallier les lacunes du droit international de l'environnement et de contribuer peut-être à l'émergence d'un cadre juridique mondial contraignant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'ambition précisément de ce pacte, qui n'est évidemment pas encore signé, hein, mais est-ce qu'il est véritablement différent des précédents accords internationaux dans la philosophie même, et en particulier sur la question juridique évidemment qui nous intéresse?
Alors, le pacte mondial de l'environnement qui est actuellement en négociation devant les Nations Unies, qui est une initiative extrêmement intéressante. En réalité, ce n'est pas le seul pacte qui avait été élaboré. Il y en a, on peut compter trois actuellement, depuis deux ans à peu près, qui ont été rédigés. C'est celui-ci qui a réussi à être devant les Nations Unies, mais il y en a deux autres et qui ont été d'ailleurs rédigés en France et qui sont intéressants. Peut-être qu'on peut dire un mot si ça vous va. Alors, il y a eu une déclaration, donc c'est pas un pacte, c'est une déclaration qui avait été demandée à Madame Corinne Lepage par le président Hollande à l'époque, au moment de la COP21, juste avant. Et c'est une déclaration des droits de l'humanité et dans laquelle la dimension environnementale, l'humanité entendue comme collectif et comme vraiment ensemble des êtres vivants sur Terre avec une relation indissociable par rapport à la nature et à l'environnement. C'est un peu l'esprit de cette déclaration. Bon, après, il y a eu un deuxième pacte, enfin un deuxième texte qui lui est un pacte, qui a été rédigé par une ONG qui est le Centre international des droits comparés de l'environnement à Limoges. Il a été rédigé par un groupe d'universitaires dirigé par Michel Prieur qui est professeur émérite des droits de l'environnement et qui est à l'origine de la codification des droits de l'environnement en France et qui est un pacte extrêmement intéressant qui prévoit d'ailleurs et tout un mécanisme de contrôle juridique de la part des Nations Unies. Et après, il y a ce troisième texte qui est celui qui est actuellement devant les Nations Unies.
Proposé en 2017, par un réseau international avec des professeurs, des juges, des avocats qui représentent une quarantaine de pays du Nord et du Sud, qui s'est formalisé au sein d'un groupe qu'on appelle le groupe d'experts pour le pacte et qui est présidé par Laurent Fabius.
Oui, exactement, et qui avait été en fait initialement rédigé par un groupe en France, le Club des juristes, qui a été assez rapidement élargi par un groupe d'experts internationaux.
Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'idée derrière, la philosophie derrière, c'est de se doter d'un nouveau texte avec une force juridique contraignante? C'est ça la différence?
Par rapport aux déclarations qui existaient avant, oui, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens de contrôle extrêmement précis prévus dans le pacte, et aussi la question de la procédure, les organes en fait qui vont suivre finalement si le pacte est accompli par les États signataires ou pas.
Camilla Peruzzo, c'est bien ça l'idée, hein, c'est d'avoir un véritable texte contraignant, là, pour
absolument.
Le coup.
Absolument. Donc, l'idée,
quand la COP21, par exemple, n'était que déclarative et engageait les États, mais évidemment, avec des contraintes qui ne sont pas réelles, en tout cas, qui ne sont pas des contraintes juridiques.
Oui, à l'issue de la COP21, on a adopté l'accord de Paris, qui c'est un traité donc qui a de la force contraignante, donc qui oblige les États. L'idée justement du pacte pour l'environnement, c'est que ce soit un traité qui va rassembler tous les principes juridiques principaux relatifs aux droits de l'environnement et qui aura justement une force contraignante. Dans ce projet de pacte est prévu un organe de contrôle, justement, qui met sur la base des rapports périodiques. Donc, c'est vrai qu'il ne prévoit pas un état actuel des communications individuelles, comme on pourrait éventuellement vouloir, parce que c'est vrai que les mécanismes seraient beaucoup plus perfectionnés. Mais l'idée de ce projet de pacte, c'est de donner une cohérence aux principes environnementaux qui existent déjà. Donc le constat, c'est qu'on a déjà, on a beaucoup d'accords environnementaux, donc à peu près 500 accords qui établissent dans différents secteurs des obligations à l'égard des États. Mais tous ces principes-là, ils ne sont pas mis en cohérence. Donc, ce projet de pacte, il est un peu une suite logique de la déclaration de Rio de 1992 et de tous les principes qui ont émergé dans ces domaines du droit. Donc, le pacte pour l'environnement, il consacre dans son article premier un droit de vivre dans un environnement sain, justement, et ensuite l'obligation des États de garantir que l'environnement soit protégé.
Donc ça veut dire, si je comprends bien, que les politiques, que les États auraient l'obligation d'aligner d'une certaine manière leur législation avec ce pacte. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on peut traduire les choses, Martha Torrechaud?
À partir du moment où un État, mais c'est général en droit international, à partir du moment où un État ratifie un texte de droit international, il s'oblige par cette ratification et donc d'une manière ou d'une autre, il doit intégrer ce qu'il a signé en droit international dans le droit interne.
Mmh. Ce qui veut dire que s'il ne le fait pas, on pourrait avoir par exemple des cours suprêmes qui retoqueraient un certain nombre de lois en disant non, ce n'est pas en accord, ce n'est pas aligné avec ce fameux pacte mondial pour l'environnement, donc cette loi n'est pas... Non mais concrètement, il faut rentrer un peu dans la mécanique juridique pour savoir en quoi est-ce que c'est contraignant.
Oui, alors il faut peut-être nuancer parce que ça dépend de la manière dont le droit international doit être suivi, et ça, c'est une question souveraine qui appartient finalement à chaque droit interne de chaque État. Donc, ce n'est pas la même règle pour tous les États. C'est vrai qu'en France, le droit international peut être d'application directe, et quand il n'est pas d'application directe, il y a moyen, effectivement, d'invoquer devant un juge le fait que la France s'est engagée dans X obligations découlant du droit international et que par conséquent, il faut honorer ces obligations. Mais il y a d'autres droits nationaux qui n'ont pas cette même positionnement par rapport au droit international. Et donc, il n'est pas d'application directe ou il n'est pas aussi facilement invocable devant les tribunaux.
Qui peut l'invoquer justement devant les tribunaux? Des citoyens, des entreprises qui pourraient le faire?
relativement à ce projet de pacte pour l'environnement.
Donc, est-ce c'est que vrai moi-même, que la... citoyen, est-ce qu'une ONG pourrait effectivement poursuivre des entreprises ou même des États par le truchement de ce nouveau droit international qui découle de ce pacte mondial pour l'environnement?
Oui, voilà. En France, déjà, on va devoir, une fois ratifié, comme Martha nous expliquait, il va falloir qu'on... que ce soit tranché s'il a une invocabilité directe ou pas. Donc, il faut savoir si ces pactes, si les citoyens vont pouvoir tirer des droits de ces pactes. Une fois que c'est dit oui, donc on prend cette hypothèse, on peut effectivement accéder aux tribunaux internes, donc dans l'ordre interne, pour faire valoir ces droits, par exemple, à un environnement sain.
D'accord.
Voilà, c'est mais bon, en France, on a déjà la charte de l'environnement, donc qui consacre déjà
en fait on a ce qu'il faut déjà en France,
voilà.
Mais seulement il faudrait que ce soit réellement applicable en France, mais on l'a quand même depuis 2005. Et on avait déjà une première loi sur la nature de 76 et une autre de 95. Donc la France, elle est plutôt bien lotie en matière de droit écrit, mais après l'efficacité de ce droit et la mobilisation de ce droit, c'est une autre question.
Et oui, c'est toute la question, parce que la théorie c'est une chose, mais la pratique c'en est une autre. Est-ce qu'il est réellement raisonnable d'augmenter encore les ambitions, alors même qu'on a déjà du mal quand on cherche un consensus sur un texte non contraignant?
Vous voulez dire les ambitions de la France en
non,
matière
les,
de...
les ambitions internationales, est-ce qu'il est bien raisonnable de travailler sur ce pacte mondial pour l'environnement, de construire un droit international de l'environnement, alors même que quand on a un texte qui est moins contraignant en tout cas que celui-ci, on n'y arrive pas?
Je pense que c'est...
Alors je vais vous poser la question autrement. Quels sont les pays qui seraient prêts à ratifier ce genre de texte? C'est Emmanuel Macron qui l'avait présenté l'année dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2017. Quel allié il a aujourd'hui? Qui pourrait ratifier ce traité, ce pacte?
La Chine, l'année dernière, par exemple, était favorable à cette rédaction, à ce texte. L'Inde aussi. Donc ce sont le Brésil à ce moment-là aussi. Donc c'était des partenaires, enfin, qui pouvaient justement aider dans l'adoption, dans la négociation de ces projets, qui sont importants. Parce que bon, ils viennent
avec eux. Le
Brésil,
on peut l'enlever. La Chine et l'Inde, peut-être. Le Brésil, on peut déjà l'enlever avec Bolsonaro, l'arrivée de Bolsonaro.
Oui, absolument. Après, ce qui est intéressant de ce projet, c'est que l'idée, c'est vraiment de trouver une cohérence, une harmonisation minimale des principes environnementaux pour tous les États. Donc, c'est vrai que des États qui ont des règles moins ambitieuses, comme c'est le cas de la France, ils seront menés à respecter un socle minimal. Et ça, c'est intéressant dans le projet.
Martha Torre-Schaub, s'il y a un droit international pour l'environnement, faisons l'hypothèse qu'effectivement ce pacte mondial pour l'environnement est adopté, ça veut dire aussi qu'il faut une juridiction pour protéger ce droit. On aura quoi? On aura un tribunal international? On aura une cour internationale de justice spécifique pour les délits environnementaux? Il y a quand même un moment où il faut ce genre d'outil, non?
Oui, tout à fait. Alors, en réalité, c'est quand même une question qu'on se pose depuis 72 ans, comme a dit Camilla tout à l'heure, puisqu'il y a déjà des textes émanant des Nations Unies sur la protection de l'environnement. Ça remonte vraiment aux années 70. Et la question est toujours la même. Est-ce que c'est... on peut le poursuivre devant un tribunal international? Est-ce que la Cour internationale de justice, elle est compétente pour...
Faudrait élargir son mandat.
Alors,
en
réalité, il y a déjà eu quand même des décisions intéressantes en matière environnementale de la part de la Cour internationale de justice.
Vous pensez à quoi?
Je pense par exemple à la décision pâte à papier. Je pense à une toute dernière décision qui a eu lieu, je crois, en 2017 ou tout début 2018, qui opposait en fait le Nicaragua et le Costa Rica, qui en plus formulait la relation homme-nature d'une manière extrêmement intéressante en reprenant la notion des dommages à l'environnement. Donc c'est quand même un pas en avant extraordinaire de la part de la Cour internationale des justices. Donc ça existe déjà.
Si je comprends bien, en tout cas le projet de tout cela, c'est de faire la possibilité de vivre dans un environnement sain un droit fondamental finalement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Non, vous tiquez.
Non, pas du tout. Je bouge dans ma chaise.
Mais on peut s'interroger peut-être précisément sur cette mise en relation de l'environnement et des droits humains. Parce que si l'on ne protège l'environnement que pour ses effets sur les individus, sur les droits humains, ça peut éventuellement dire qu'on pourrait passer à côté de tout un tas de dégradations qui n'ont pas d'impact direct sur les populations, qui n'ont pas d'impact direct sur les droits humains. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop imbriquer environnement et droits de l'homme?
Oui, absolument.
Camilla Perrouzeau.
Pardon.
Je vous en prie.
Mais après, c'est un des moyens. Il ne faut pas que ce soit le seul moyen de protéger l'environnement. Il ne faut pas seulement passer par ce biais-là. Après, considérer que la protection de l'environnement relève d'un droit humain, c'est positif dans la mesure où on érige la protection de l'environnement à une valeur plus importante à côté d'autres intérêts. Et on sait combien c'est difficile face aux enjeux économiques, comment c'est difficile de protéger l'environnement. Donc il y a cet avantage de considérer la protection de l'environnement en tant qu'un droit de l'homme, justement parce que ça deviendrait une valeur plus importante, qui ferait donc face d'une façon plus équilibrée à d'autres intérêts.
Martha Torrechaume.
Alors, peut-être pour compléter ce qu'a dit Camilla, il me semble que la relation droit de l'homme en général et environnement, elle a été établie depuis très longtemps. Il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on entend par droit de l'homme, c'est-à-dire même les droits, les premiers droits, les droits civils et politiques, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à la vie familiale, le droit à la liberté, le droit à l'information. En fait, ces droits-là, s'il y a une dégradation environnementale, si les personnes sont obligées de se déplacer, s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de nourriture, s'il y a une crise alimentaire grave, si ça aggrave la pauvreté et les conditions de vie, il y a forcément un challenge par rapport à ces droits du premier socle des droits de l'homme, à la vie.
Donc il n'est pas utile d'en rajouter et de faire d'un droit à vivre dans un environnement sain un autre droit fondamental. C'est ça que vous voulez dire? Toute façon, tout est imbriqué. Non, mais je cherche à comprendre.
Oui. Non, je ne veux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que...
Est-ce qu'il faut en faire un droit fondamental?
Ce droit-là, il existe déjà.
Est-ce qu'il faut en faire un droit fondamental?
De droit à l'environnement, ça, mais oui. C'est déjà un droit fondamental.
Pas dans la Déclaration universelle de 48.
Ah, dans la Déclaration universelle, probablement pas. Mais par exemple, dans la Constitution française, c'est un droit fondamental.
Oui, mais déjà. C'est pas le droit international, ça.
Non.
Après, on peut dire qu'il y a une mouvance, hein, le droit international, comment il se construit, si on observe cette progression, ce développement progressif du droit international, on voit qu'aujourd'hui, c'est effectivement un moment opportun de reconnaître ces droits à un environnement sain. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui est justement déjà consacré dans plus de 100 constitutions dans le monde, donc ça montre cette volonté juridique des États de considérer, de reconnaître ces droits de l'homme, parce qu'il est déjà présent dans plusieurs systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Donc il est dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans les protocoles à la Convention américaine des droits de l'homme. Donc c'est un droit qui est déjà, qui existe déjà. Après, le fait de le reconnaître dans un texte de portée universelle, oui, ça contribuerait au développement des obligations d'une façon sont plus cohérente et harmonieuse.
On est avec vous, Camilla Perrouzeau, et vous, Martha Torrechaume, dans cette semaine consacrée aux droits de l'homme, actualité d'une ambition aujourd'hui, protéger l'environnement, un droit fondamental. On va s'intéresser tout de suite aux migrations environnementales. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h29.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Mon village est très beau, mais les gens s'en vont tous. J'ai même retrouvé des amis ici. Mais la vie est beaucoup plus dure que dans la ville. Je voudrais qu'on économise pour repartir là-bas.
Avant, on habitait de l'autre côté, mais il y a eu un ouragan. Alors, on s'est installé par là, un peu plus loin.
mais la maison a été détruite par la rivière. Vous voyez, on est toujours prêt. Ça, c'est un sac avec des vêtements. On prend les oreillers pour dormir, les affaires d'école des enfants et un peu de nourriture. Le reste, on le met en hauteur et on n'a plus qu'à prier.
Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 24 en 2015. Le Bangladesh, l'un des pays les plus concernés évidemment par le dérèglement climatique, avec 20% de ses terres qui pourraient disparaître d'ici quelques années, ce sont des millions de personnes qui seront forcées de se déplacer. On parle de 25 à 30 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 au Bangladesh. Or, en droit international, il n'existe aucune reconnaissance juridique des réfugiés climatiques et donc aucune prise en compte de leur réalité au sein des institutions internationales. Alors, comment expliquer cette incapacité à adopter des politiques migratoires aptes à prendre en compte des mouvements de population liés au dérèglement climatique? Est-ce qu'on peut espérer une reconnaissance juridique de cette catégorie de réfugiés? On va retrouver une nouvelle invitée, Alice Baya, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'IRIS et docteur associée au CERI Sciences Po. L'année 2017 a été inédite concernant les déplacements engendrés par des catastrophes naturelles. Selon le rapport de l'International Displacement Monitoring Center, ce sont 19 millions de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes naturelles dans 135 pays. C'est donc plus que pour les conflits armés, sachant que parfois, évidemment, les causes environnementales peuvent aussi provoquer, aggraver les conflits politiques, les conflits armés. Mais les choses vont s'aggraver. Selon les estimations de l'ONU, il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et pourtant, en 2018, il n'y a toujours pas de reconnaissance de ce statut. Pour quelle raison? Pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'accorder sur la reconnaissance de ce statut spécifique dans le droit international?
Bah écoutez, je pense que déjà il y a plusieurs raisons qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que pour l'heure le statut de réfugié climatique n'existe pas. Déjà parce que ce statut de réfugié, il est jusqu'à présent couvert encadré par la Convention de Genève de 1951 et la définition juridique du réfugié prévue par cette convention ne permet pas d'inclure le facteur environnemental faire reconnaître un statut de réfugié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la persécution, entre guillemets, environnementale n'est pas reconnue dans le droit international et donc les personnes qui migrent en raison de dégradation environnementale ne peuvent pas prétendre à ce statut selon la définition prévue dans le droit international.
Ouais, selon la convention de Genève de 1951. Donc ça veut dire que il n'est pas suffisant et qu'il faudrait quand même avoir une nouvelle catégorie de réfugiés. Je vous laisse poursuivre.
Oui, alors il faudrait poursuivre, sauf que aujourd'hui on sait qu'on est quand même dans un contexte politique relativement défavorable à une ouverture des droits relatifs à la migration. Donc réouvrir aujourd'hui les discussions pour étendre potentiellement le mandat de la Convention de Genève de 51, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement recommandé, même par les juristes spécialistes de la question en droit international, puisqu'on craint en fait que cela ne donne finalement l'occasion aux États de réduire plus que d'étendre en fait le mandat de cette convention.
Mais Alice Baya, on en a parlé beaucoup hier, l'ONU vient d'adopter un pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Je reprends la formule exacte, en tout début de semaine à Marrakech. Ouais. Ça aurait pu être l'occasion de donner justement un statut à ces millions de déplacés de réfugiés climatiques. Est-ce qu'il y a des éléments justement dans ce pacte de Marrakech concernant les effets du dérèglement climatique sur les déplacements forcés? Est-ce qu'il introduit une nouvelle pratique en matière de gestion des réfugiés climatiques?
Non, alors ce pacte ne prévoit pas... Bon, ce pacte, finalement, se résume d'abord à une série de recommandations. Donc, ça reste un pacte qui sera non contraignant, qui reconnaît la souveraineté des États à l'égard des politiques, en tout cas de la définition de leur politique migratoire. Donc, non, le pacte ne prévoit pas quelque chose relatif à la gestion des migrations climatiques en particulier. Par contre, il reconnaît le changement climatique comme facteur de migration et il encourage les États à lutter finalement contre les causes qui provoquent certains phénomènes migratoires et donc, entre guillemets, à s'attaquer au problème du changement climatique via notamment, par exemple, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Puisqu'on sait, et ça c'est un rapport de la Banque mondiale qui a été publié il y a quelques mois, que donc ce rapport prévoit à peu près 140 millions de personnes déplacées dans trois grandes régions du monde à cause des changements climatiques d'ici 2050. 80% de ces déplacements, selon la Banque mondiale, pourraient être évités si les États s'engagent de manière ambitieuse à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc le pacte mondial
S'engager, ils le font. Le problème, c'est qu'ils ne respectent pas leurs engagements. Il y a quelques mois, à Lisbaya, il y a une note interne à l'ONU qui révélait l'impréparation des Nations Unies face aux migrations climatiques qui s'annoncent. Est-ce qu'il faut comprendre qu'au-delà de cette question du statut du réfugié climatique qui n'existe toujours pas aujourd'hui, en fait, le monde et en particulier les Nations Unies ne sont absolument pas préparés à la vague de migrants climatiques qui s'annonce et qu'en réalité, on se dirige tout droit vers un chaos total, faute de s'être accordé sur le meilleur moyen de faire face à ce défi?
Oui, je pense qu'effectivement, on peut dire que l'ONU, comme les États et les sociétés, personne n'est préparé aujourd'hui à gérer ces flux migratoires. Déjà parce que je pense qu'on a, on est piégé par un paradigme, dans un paradigme en tout cas extrêmement sécuritaire, dans notre appréhension des phénomènes migratoires, qui nous empêche de voir aussi la migration comme quelque chose qui n'est pas qu'une menace, qui n'est pas qu'un danger pour les sociétés notamment d'accueil, mais qui peut être aussi une stratégie à encourager et qui peut avoir des effets bénéfiques aussi bien pour les populations vulnérables qui vont devoir migrer que pour les sociétés d'accueil qui pourront les accueillir. Donc je pense qu'on est piégé par ce paradigme sécuritaire sur lequel il faudrait réussir, enfin qu'il faudrait réussir à modifier, mais les obstacles politiques sont nombreux aujourd'hui pour ça. L'autre raison, c'est qu'en fait, pendant longtemps, on a construit une gouvernance internationale des migrations sur une vision binaire où on a généralement classé en fait les réfugiés politiques d'un côté et puis les autres, c'est-à-dire les migrants économiques de l'autre. Et dans cette approche-là de la migration, le facteur environnemental a très longtemps été oublié, alors même qu'il a, je pense, toujours existé et toujours permis en fait de comprendre les dynamiques migratoires dans le monde.
Vous restez avec nous, Alice Baya. Je voudrais faire intervenir nos invités ici en plateau, Camila Peruzzo et Marta Torre-Chaube, piégés dans le paradigme sécuritaire, nous disait Alice Baya. Marta Torre-Chaube.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Madame Baya. Il est difficile aujourd'hui, effectivement, de combiner les dangers et les coulées qui découlent d'un environnement dégradé et des questions sécuritaires qui montent et qui font également, d'une certaine manière, augmenter les mesures qui empêchent finalement les gens de se déplacer de manière à les mettre à l'abri.
Camila Peruzzo.
Oui, c'est triste, enfin c'est une triste réalité finalement, parce que on n'arrive pas à prendre en compte la réalité, une réalité qui est flagrante, qui est absurde, qui est des populations, des personnes n'auront dans les années à venir plus moyen de vivre dans leur région. Et malheureusement, on voit un développement de prise en compte de cette situation qui va complètement à l'encontre de ce qu'il fallait, il faudrait faire.
Alice Baya, puisque les Nations Unies n'y arrivent pas, sur quoi peut-on compter? Est-ce qu'il y a des pays qui effectivement introduisent dans leurs lois de nouveaux éléments concernant justement ces réfugiés climatiques? Est-ce que par exemple l'Union européenne, est-ce qu'elle pourrait proposer un cadre pour faire un peu avancer les choses concernant les réfugiés climatiques? Ou est-ce que là encore, il ne faut rien attendre ou pas grand-chose?
Alors, il y a des initiatives qui se développent à différentes échelles dans le monde aujourd'hui. Je pense que la première qu'on peut mentionner est au niveau international. Alors, ce n'est pas dans le cadre de l'ONU, mais il y a aujourd'hui, depuis 2016, ce qu'on appelle une plateforme pour les déplacements post-catastrophes naturelles, qui est une initiative intergouvernementale et qui a abouti en 2015, juste avant la COP21, à la signature d'un agenda de protection censé justement protéger les individus qui migrent et qui franchissent une frontière à l'issue d'une catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, donc cet agenda, il est géré par cette plateforme qui a donc été mise en place en 2016. Donc ça, c'est une première initiative qu'on peut quand même saluer, mais qui est encore une fois non contraignante. Donc seuls les États désireux de signer cet agenda le sont, mais ce n'est pas contraignant. On a aussi des initiatives à l'échelle régionale. Alors, plus que l'Union européenne, là, j'aurais quand même envie de citer une initiative de l'Union africaine à travers la Convention de Kampala, donc qui n'est pas toute toute récente, mais cette convention mentionne le changement climatique et contraint les États qui sont signataires à protéger aussi les personnes déplacées par les catastrophes naturelles dans cette région de, enfin dans les pays de l'Union africaine. À l'échelle de l'Union européenne, il y a eu plusieurs tentatives de mise à l'agenda en fait de cette question au Parlement. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. À ma connaissance, et il me semble que l'Union européenne aujourd'hui est là encore dans un contexte où il me semble difficile d'aborder sereinement les questions migratoires et notamment la question des migrations climatiques où là on parle, comme vous le disiez au début, de 150 voire 200 millions de personnes quand on voit la difficulté de l'Union européenne aujourd'hui à gérer quelques centaines de milliers ou millions de personnes, on a du mal à imaginer cette même Union européenne capable de mettre sur la table une réflexion qui couvrirait cette fois des centaines de millions de personnes.
Donc il va falloir attendre que les contextes politiques changent et pendant ce temps, la maison brûle, comme disait un ancien président. Merci beaucoup Alice Baïla d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur notamment de L'enjeu mondial, l'environnement, qui était paru aux presses de Sciences Po. On va s'intéresser peut-être à présent au procès de justice climatique. Il y en a un petit peu partout dans le monde, de la Colombie aux États-Unis, en passant par les Pays-Bas. De plus en plus de citoyens sollicitent la justice pour que les États assument leurs responsabilités. Martha Torres-Chaube, vous êtes intéressée en particulier à un cas très intéressant qu'on appelle le cas Urgenda, du nom d'une ONG. Quelques centaines de Néerlandais avaient entamé une action en justice contre leur gouvernement avec l'aide justement de cette ONG Urgenda. Ces citoyens demandaient des mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En juin 2015, la Cour de justice de La Haye avait condamné l'État des Pays-Bas, une décision confirmée en appel en octobre dernier. Je vous propose d'abord d'écouter Marjane Minesma qui revient justement sur ce jugement en appel sur cette affaire Urgenda, c'était en octobre dernier.
C'est une très bonne décision. Nous avons gagné sur chaque point. Et c'était une très bonne explication sur l'urgence de faire ce qui est nécessaire et sur ce que les pays industrialisés devraient faire pour réduire leurs émissions de CO2 de 25 à 40%. La Cour a également déclaré qu'une réduction de 40% était nécessaire. Mais dans ce cas précis, nous n'avions demandé que 25%, de sorte qu'ils n'ont pas rendu de jugement à ce sujet. En revanche, ils ont clairement souligné que le changement climatique est un problème très urgent, qui peut engendrer des risques énormes. Donc l'État devrait au moins faire le minimum. Nous avions donc raison sur chaque point.
Voilà, donc Marjane Minesma, ravie de confirmation en appel de cette décision. Martha Torres-Chaube, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette affaire. Et est-ce qu'il faut comprendre que, puisque précisément le droit international, en tout cas on l'attend encore, et que finalement les institutions supranationales ne sont pas encore au niveau, eh bien il faut peut-être se tourner justement vers les États, vers la législation nationale et vers effectivement des juges nationaux qui, ça et là, pourraient rendre des décisions importantes, décisives en la matière.
Alors, effectivement, la question des contentieux climatiques qui s'est multiplié depuis 2015 est une question qui peut servir à, d'une certaine manière, combler les insuffisances du droit international en la matière. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ces types de contentieux. Je dirige deux projets de recherche sur ces questions précises. Mais pour moi, c'est une dynamique, en fait, les contentieux climatiques. Donc, il ne faut pas juste étudier un cas précis, même si on en apprend beaucoup de choses et qu'il y a des influences sur d'autres cas. Mais c'est toute une dynamique, c'est-à-dire que ça bouge entre le contexte international, le contexte national et vice-versa. Il y a des influences réciproques. Donc, pour moi, cette question des contentieux climatiques, c'est vraiment une circulation, finalement, à la fois d'arguments juridiques, à la fois des manières, en fait, de poser la question et également une circulation des textes internationaux et nationaux. Donc, Urgenda, c'est vrai que c'est un cas, je dirais, emblématique, d'abord parce que c'est le premier en Europe, parce qu'il y a eu en plus un appel et que ça a été confirmé. Et troisième élément très intéressant par rapport à Urgenda, c'est la mobilisation des droits de l'homme. Donc, ça fait sens avec ce qu'on est en train de traiter dans cette émission, puisque toute la deuxième partie de cette décision en appel, elle est appuyée sur le fait que c'est sur la base du droit à la vie et à la vie familiale qui sont contemplés dans la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il faut que l'État néerlandais prenne une action pour protéger les citoyens.
Ça veut dire, si je vous comprends bien, que le raisonnement du juge s'est appuyé à la fois sur la législation nationale, sur la législation européenne, et aussi peut-être sur la législation internationale, enfin sur le droit international. C'est comme ça que je dois traduire ce que vous m'expliquez.
Oui, je crois que vous avez parfaitement saisi ce que je vois moi-même, puisque les Pays-Bas ont quand même souscrit d'abord à la Convention cadre sur les changements climatiques de 92, donc ils ont une obligation par rapport à cela, et ensuite l'accord de Paris de 2015. Ensuite, il y a tous les engagements au niveau européen. On peut imaginer que le droit européen est à la fois un droit international et un droit régional. En tous les cas, c'est pas un droit national. Donc, le droit international, compris dans ce sens très large, oblige en fait les Pays-Bas à honorer un certain nombre d'obligations. Et par ailleurs, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, qui est donc un droit intermédiaire international, régional, qui oblige également à un certain nombre d'obligations.
Et pour être tout à fait complet, donc on dit qu'il y a eu cette première condamnation, il y a eu cet appel en octobre dernier, mais l'État s'est pourvu en cassation, donc il va falloir aussi encore attendre. La bataille judiciaire n'est pas complètement finie. Camilla Peruzzo, sur ce cas de contentieux climatique un peu partout dans le monde, et puis peut-être en particulier pour aller un peu plus en profondeur dans cette question-là, il y a quelque chose sur lequel on pourrait s'interroger, c'est aussi... la question de la liberté d'un gouvernement à conduire la politique qu'il souhaite, en tout cas la politique pour laquelle il a été élu. C'est-à-dire qu'on touche là aussi à quelque chose d'essentiel, qui est que visiblement on a là une situation où un juge peut, alors on ne juge pas, enfin... En tout cas, moi, je ne juge pas, mais peut avoir une influence sur la législation, parce qu'il se trouve que dans ce cas précis, le gouvernement a adopté une nouvelle loi pour justement être en accord avec les ambitions d'émissions de gaz à effet de serre, même si le gouvernement dit que ce n'est pas un résultat direct de cette condamnation, il n'empêche que ça, c'est là. Et donc, on peut s'interroger sur l'influence du juge, sur le fait qu'il est en capacité de transformer d'une certaine manière la loi. Alors, il ne l'écrit pas, mais en tout cas, il a cette capacité transformative qui s'offre à lui désormais.
Oui, oui.
C'est un défi pour nos démocraties.
Oui, oui, c'est un défi qui pose justement les changements climatiques et ce contentieux climatique. Martha, elle a beaucoup écrit justement sur la séparation des pouvoirs sur les impacts qui peuvent avoir ces décisions. Donc peut-être elle aura des mots à dire.
En lui redonnant la parole.
Voilà, mais juste pour reprendre à cette question-là, on est un appel dans l'affaire Urgenda, donc le gouvernement qui appelle. Mais ce qui peut être intéressant dans ces mouvements des interdépendances entre les droits nationaux et le droit international, c'est une possibilité que éventuellement, si les victimes ne trouvent pas satisfaction au niveau interne, c'est de recourir à une juridiction internationale, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Ça fait partie justement d'un système régional de protection des droits de l'homme, mais que c'est du droit international. Donc de voir ce mouvement et de voir une possibilité d'équilibre entre ces juridictions.
Martha Torre-Chaube.
Oui, alors...
Et peut-être justement précisément sur cette question de la séparation des pouvoirs.
C'est ça, vous évoquiez ça. Et je pense que c'est très important, et même par rapport à la problématique plus générale des droits de l'homme, c'est important quand même de nuancer. Le juge n'écrit pas du droit dans ces contentieux-là.
Ouais, il ne crée pas la loi, mais...
Il interprète, et disons qu'il met effectivement les gouvernements un peu au pied de l'étrier, en leur rappelant qu'il y a un texte qu'il faut interpréter, que ce soit en droit international, régional ou en droit national, et qu'il y a des obligations qui découlent de ces textes-là et que par conséquent, il faut passer à l'action. Les juges, n'empiètent pas sur le pouvoir du législateur, mais le poussent et lui rappellent qu'il y a des textes qui existent, qu'il faut honorer et qu'il faut donc interprétée et appliquée. Donc la séparation de pouvoir, à mon sens, elle n'est pas du tout violée. Elle est tout simplement, les choses sont remises à leur place avec un rappel important.
Et alors, Camilla Peruzzo nous disait, dans le cas où Urgenda n'arrivait pas à obtenir gain de cause après la cassation, on pourrait peut-être remonter à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque contentieux de ce type, il faudra refaire ce processus, où il y aura une forme de jurisprudence qui pourrait s'appliquer d'une certaine manière. Là, on est en train de vivre le plus dur, mais que lorsque ces décisions seront tombées, le combat juridique sera plus simple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Qui veut y aller? Camilla Peruzzo? On est presque au terme de l'émission.
Je pense que c'est les procès climatiques, donc ça commence à émerger, donc il y a un foisonnement de contentieux dans le monde entier. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à accéder aux instances internationales, ouais. Mais ça va arriver. Enfin, on imagine, la tendance, c'est que ça puisse arriver. Et si on voit les contentieux environnementaux, donc c'est vrai que aujourd'hui, on a une jurisprudence très importante de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport au droit à un environnement sain, donc par le biais d'autres droits protégés par la Convention européenne, bien sûr. Mais c'est déjà quelque chose qui est établi, qui a eu un développement. Donc on peut imaginer que dans les cas des changements climatiques, ça puisse aussi évoluer dans ce sens-là.
Martha Torre-Chaube, ce sera le mot de la fin, là. En guise de conclusion.
En guise de conclusion, je pense que ces procès climatiques qui se développent dans le monde entier, mais plus particulièrement en Europe, ont très probablement comme ambition, si ça n'arrive pas à se résoudre au niveau national, d'arriver à l'organe régional, qui est l'organe intermédiaire entre national et international des droits de l'homme. En utilisant une jurisprudence qui existe déjà bien assise sur l'interprétation du droit à la vie comme un moyen de protéger un droit à l'environnement sain. Donc en attendant qu'il y ait un droit fondamental précis, concret sur le droit à l'environnement sain, on utilise les autres droits de l'homme pour protéger le droit à l'environnement. Voilà.
Generation, parce que oui, évidemment, protéger l'environnement, c'est avant tout pour les générations qui viennent. Merci infiniment, Camilla Peruzzo, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai simplement que vous avez participé à cet ouvrage collectif, Les procès climatiques entre le national et l'international. Merci également à vous, Martha Torre-Chaube. Je rappellerai vous concernant l'essentiel des grands arrêts de la jurisprudence en droit de l'environnement chez Galino Lextenso, mais aussi Quel droit pour les changements climatiques chez Marais et Martin. C'était en 2017. Merci infiniment à toutes les deux. Songs. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Qu'est-ce qu'on dit des gilets jaunes à l'étranger? Comment les grandes plumes de l'intelligence internationale voient l'affaire? C'est la question que vous posez ce matin.
Pour l'instant, les grandes plumes de l'intelligence internationale se gardent de livrer sur la révolte française des gilets jaunes des avis bien tranchés. Ou bien la France ne les intéresse plus, ou bien ils réservent leur jugement pour plus tard. Je guette depuis des jours une réaction sur le site Project Syndicate où écrivent en anglais, espagnol, arabe, russe, mandarin les intellectuels publics les plus fameux du monde dont on ignore bien souvent les noms en France. En vain. Seul notre BHL national s'y est risqué, mais ça ne compte pas puisque justement il est de chez nous. Non, je tablais sur un étranger véritable, suffisamment éloigné de nos querelles de Gaulois pour être capable d'un regard distancié. Tout ce dont nos médias ont paru étrangement incapables, eux qui nous ont habitués à tant de vigilance et d'ironie envers les politiciens professionnels, mais qui ont manifesté une si étonnante complaisance envers les porte-paroles de ce mouvement, et même les plus discutables. Or voilà qu'hier, Project Syndicate a mis en ligne en anglais le premier texte consacré aux Yellow Vests. Tous les Européens, écrit Guy Verhofstadt, c'est l'auteur de ce texte, l'ancien Premier ministre belge et le président du groupe ALDE au Parlement européen, tous les Européens, dit-il, devraient s'inquiéter de voir en France, je cite, un mouvement qui avait débuté comme une protestation décente de classe moyenne contre une nouvelle taxe sur les carburants, détournée par des agitateurs de l'alt-right qui utilisent leur mouvement comme une plateforme pour vomir la haine et des mensonges. Je cite toujours. D'une manière ou d'une autre, beaucoup de partis et mouvements populistes en Europe bénéficient d'un soutien financier du Kremlin. Les preuves d'une interférence d'argent sale en provenance de Russie dans le référendum au Royaume-Uni s'accumulent. De son côté, l'alt-right, venu de l'Amérique de Trump, exploite les peurs et mine les tentatives sérieuses d'apporter des solutions réellement globales aux défis posés par les migrations et par le changement climatique. Bien sûr, poursuit Guy Verhofstadt, l'urgence commande d'abord de lutter contre la propagation de fake news qui alimente la vague populiste et eurosceptique. Malgré l'état catastrophique que se trouve aujourd'hui la Grande-Bretagne du fait de son choix de quitter l'Union européenne, cette vague n'a pas été stoppée, contrairement à ce qu'on pouvait croire encore l'année dernière. Et il suffit pour s'en convaincre de consulter le sondage publié hier par l'Opinion, enfin ce matin par l'Opinion, un sondage de l'IFOP. Selon son sondage, les partis d'extrême droite, Front National et Debout la France, sont crédités aujourd'hui du tiers des intentions de vote aux élections européennes. Les troubles sociaux favorisent toujours les partis qui se réclament de l'ordre. Comment certains ont-ils pu imaginer le contraire?
Alors si on revient, si vous voulez bien, à Guy Verhofstadt, Brice, quelles conséquences voit-il pour l'Europe, lui?
Il estime que les critiques formulées par les populistes envers le fonctionnement de l'Union européenne manquent leur cible. Parce que le problème de l'UE, ce n'est pas qu'elle en fait trop au détriment des souverainetés nationales. Non, le problème de l'UE, dit-il, c'est qu'elle en fait trop peu, trop lentement, trop tard. Oui, l'Union européenne doit changer, mais certainement pas de la manière dont le voudraient les partis eurosceptiques, en se réfugiant derrière les barrières nationales. L'UE, écrit l'ancien Premier ministre belge, doit devenir, je cite, « beaucoup plus démocratique, plus transparente, plus souveraine ». Alors on a envie de lui demander comment concilier ces trois objectifs qui ne sont pas nécessairement compatibles, parce que la démocratie, on le sait, elle exige le respect de procédures qui ralentissent les processus de prise de décision. Elle requiert de larges consultations en amont, un niveau élevé, aussi élevé que possible, de consensus, et puis des possibilités d'aménagement des règles en fonction des situations particulières. Alors on voit bien aux réformes qu'il propose que c'est la réactivité et l'efficacité que privilégie Verhofstadt. Primo, il réclame un exécutif européen renforcé et réduit. Au lieu de cette pléthorique commission à 28, un vrai gouvernement de 12 membres, 12 ministres. Le Parlement européen, de son côté, devrait recevoir, dit-il, la pleine compétence législative. Enfin et surtout, la prise de décision à l'unanimité de mise dans la plupart des politiques européennes devrait cesser, car elle permet à des États de bloquer les décisions et d'obtenir des avantages particuliers en échange de leur futur acquiescement, et il cite Orban. Mais par-dessus tout, implore Verhofstadt, l'UE doit changer de paradigme. La préservation du statu quo, l'obsession de la stabilité ne sont plus de mise dans le monde tel qu'il est. Il y a des urgences. Créer une armée européenne pour cesser de dépendre de l'Amérique de Trump pour notre sécurité. Réaliser un marché européen du numérique afin de faire émerger des GAFA européens. Se doter de garde-côtes et de garde-frontières européens pour cesser de confier le contrôle des flux migratoires à des voisins qui ne nous voulent pas que du bien, comme la Turquie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.